L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Vivre l'Afrique avec Marie-Claude Siakezak aujourd'hui, c'est la vivre avec Ozouf Amédé Niato. Bonjour Marie-Claire.
Marie-Claude,
oh là là. Mais qu'est-ce que je dis, oh là là. Je suis pas réveillée. Marie-Claude.
Et bonjour Guylaine. Je dirais pas Ghislaine, je serais pas méchante.
Et bonjour Ozouf Amédé Niato.
Bonjour.
Bienvenue à FM+.
Merci, merci de m'avoir.
Alors, certes, on va parler de l'Afrique, mais on ne va pas y rester en Afrique. On va voir qu'on va traverser les océans avec vous, Ozouf Amédé Niato. Alors, Marie-Claude, pourquoi Ozouf aujourd'hui?
Pourquoi Ozouf? Ben parce que Ozouf nous expliquera sûrement qu'on a la chance qu'il soit revenu passer quelques temps, quelques saisons avec nous. Je l'ai connu étudiant, passant sa thèse, il va vous expliquer, il est linguiste à Montpellier. Et puis un beau jour, brouf, il a disparu, apparemment il s'est envolé et il est reparti vers d'autres cieux puisque actuellement il est à Calgary, il vous expliquera ce qu'il y fait. Et j'ai eu le bonheur et le plaisir de le voir revenir en homme posé, marié, avec enfant, et puis avec un titre d'enseignant, chercheur, etc. Et voilà. Donc, il n'est pas plus de Burkina, puisque j'ai tendance, on me reproche un petit peu de faire venir beaucoup de Burkinabés. Bon, mais ça, c'est un peu le hasard aussi. Et il est du Togo, donc j'avais envie qu'il vous présente un petit peu un autre pays, une autre culture et aussi une façon de vivre la langue, la science de linguiste. Quand on est d'un continent où la langue et la tradition orale est quand même très très forte et donne des grands talents. Voilà, voilà pourquoi Ozouf aujourd'hui est parmi nous et bienvenue et j'en suis ravie. Et voilà, et j'espère même, je vais sûrement apprendre beaucoup de choses sur lui que je ne connais pas. Voilà.
Alors Ozouf Amédé Niato, vous êtes né au Togo.
Oui, c'est cela, oui. Je suis né au Togo et puis en 1992... Je suis arrivé à Montpellier.
Non, mais là, vous allez trop vite, là.
Oui, là, il
Nous,
va trop
on
vite.
A envie de savoir le Togo, quelle ville, quel village,
quelle région,
dans quelle. Voilà, non,
la scolarisation, comment après on arrive à Montpellier. On a quand même des étapes avant.
Ah, d'accord.
Okay. Alors, donc en 1992, vous arrivez à Montpellier, mais vous avez quel âge pour situer les choses?
J'ai 19 ans.
Ah, donc vous vous rendez compte, toute cette partie
mais
de
voilà.
cette adolescence au Togo.
Il voulait nous prévenir de 19 ans.
Oui.
Alors, où êtes-vous né?
Je suis né dans une ville qui s'appelle Atapame.
Atapame.
Oui, c'est dans le centre-sud
oui,
du Togo.
Je connais. Je suis allée au Togo cet hiver.
Ah.
J'étais à Lomé et je suis passée à Atapame.
D'accord.
Voilà.
Donc,
ouais, donc ça résonne.
J'ai mangé de bonnes bananes et puis de bons avocats.
Oui, exactement.
Donc c'est la ceinture verte du Togo.
Oui,
ah
c'est
oui,
ça.
D'accord. Oui. Okay.
Mm. Et ça se trouve un peu dans les montagnes.
Mm.
Donc j'étais là-bas.
Oui.
Je suis né là-bas tout simplement parce que donc, mes deux parents, mon père vient de la côte.
Du littoral.
Du littoral. Mm. Et ma mère vient plutôt d'une ville du nord.
Mm.
Et Atapame, c'était plus ou moins au milieu des deux.
Voilà.
Un compromis.
Presque à mi-chemin mm. entre les deux. Instituteurs tous les deux, donc en poste à Atapame. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que je suis...
Né à Atapame.
Né à Atapame, voilà.
Mm-hmm. Vous avez des frères et sœurs?
Oui, alors j'ai un frère et j'ai une sœur. Voilà.
D'accord. Et vous êtes l'aîné ou...
Je suis l'aîné de tout le monde, oui.
Ah, c'est une responsabilité, ça
d'être
aîné.
Ça développe.
Et donc voilà.
Mais alors vos études supérieures, parce que vous êtes arrivé à 19 ans, donc votre bac, vous l'avez passé à Lomé? J'imagine.
Oui, oui, j'ai fait le bac là-bas. En fait, j'ai fait le DEUG aussi à Lomé, c'est-à-dire dans
les deux
premières années d'université.
Ouh, mais 19 ans déjà avec un DEUG, chapeau.
Et je suis arrivé ici pour faire la licence.
Ouais.
Voilà. Mmh. À l'époque, on faisait le. Il y avait une compatibilité vraiment complète entre les deux systèmes.
Mmh.
Donc, j'ai pu faire la deuxième année là-bas et la troisième ici.
Mmh. Oui, ce n'est plus le cas maintenant? Il n'y a plus cette compatibilité dont vous parlez?
Non, je pense que c'est moins le cas.
Uh-huh.
Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas.
D'accord. Oui. Mm-hmm. Et c'était des études déjà en littérature?
Oui, parce qu'à l'époque, en fait, pour faire les sciences du langage, il fallait commencer en lettres.
Oui, c'est vrai, sciences du langage, vous avez vu.
Donc, ce n'est qu'après que les sciences du langage, qu'on pouvait les commencer dès la première année d'université. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, voilà.
D'accord. Ouais. Et donc, à ce moment-là, Montpellier.
Oui. Alors, donc, j'arrive à Montpellier et donc, je continue en sciences du langage et en lettres. Mmh. Et donc, en 2000, je finis par soutenir ma thèse.
Je m'en souviens, c'est historique.
en sciences du langage.
Oui.
Donc, à l'université Paul-Valéry. Mmh. Et voilà, en sociolinguistique. Mmh. Voilà, donc qui est la discipline, la partie de notre discipline qui s'occupe de l'étude de la langue en relation avec les variables sociologiques, l'âge, le milieu social, l'histoire.
D'accord. Et moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps, que je n'ai jamais posée à Ouzouf. Comment est accueillie cette discipline-là, par exemple? Alors, on va parler que du Togo, là, puisque comment est dans un pays, justement, je disais quand même, il y a une tradition orale très, très forte. Et je disais tout à l'heure, hors antenne, qu'en plus, l'Afrique n'a pas adopté l'écriture la lecture comme nous, enfin, comme. Et du coup, cette compétence, cette capacité orale s'est développée, continue à se développer. Alors que dans beaucoup de pays, ben, on est passé aussi à autre chose, à l'écrit. Et comment s'est pris là-bas cette discipline? Comment les gens voient cette discipline de linguisme?
Je dirais un peu comme ici.
Oui.
Encore faut-il que les gens sachent qu'il existe une telle discipline.
Tout à fait. Voilà. D'accord.
Donc, ce n'est pas une discipline très connue.
Non, parce que même ici, hein, c'est pas vraiment connu. Et c'est pour ça que je me dis, tiens, est-ce que là-bas, voilà, les gens prennent ça aussi Mais c'est vrai que non plus ici, c'est pas très, très connu. Et ce que je trouve intéressant, c'est le côté sociologique aussi, le fait de remettre de la sociologie dedans, parce qu'on voit bien que la langue n'est quand même pas tout à fait portée de la même façon selon les catégories sociales aussi. Hein,
oui, c'est cela.
Voilà.
Oui, moi, ça m'a toujours intéressé. D'accord. Et on en reparlera peut-être plus tard.
Oui, mais j'espère qu'on va en reparler.
Donc, oui. Oui, je travaille plus spécifiquement sur les politiques linguistiques. Donc oui, le côté social, pour moi, est très important.
Et après 2000, alors, parce que moi, j'ai perdu de vue un petit peu Ouzouf à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé après 2000?
Alors, donc, en 2000, alors, j'obtiens une bourse d'excellence pour aller au Canada. Et donc, au départ, je pars au Canada juste 10 mois. Voilà, et j'arrive à Moncton, donc qui est sur la côte est, dans la province du Nouveau-Brunswick, donc pour aller passer une année. Alors, le principe de la bourse d'excellence, c'est qu'on ne peut pas rester dans son université d'origine.
D'origine, oui.
On ne peut pas, puisque c'est une bourse de la francophonie, et on ne peut pas non plus retourner dans son pays d'origine. Alors, donc, j'avais le choix entre le Canada et la Belgique.
Ah bah oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, j'ai fait une chose que je fais assez régulièrement, c'est-à-dire j'ai postulé et j'ai demandé des possibilités d'accueil à Louvain, la Neuve et à l'Université de Moncton. Et je suis allé à la première institution qui m'a répondu. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve au Canada, c'est-à-dire tout à fait par hasard.
C'était un faux choix.
Oui, c'est ça. Alors, je me simplifie souvent la vie en allant avec...
Vous laissez le destin choisir.
Oui.
Oui, ça, c'est pas mal.
Alors, donc, je suis arrivé à Moncton et j'ai fait mes 10 mois. Et à l'horizon de 8 mois, donc, on m'a dit que quelqu'un, un professeur là-bas, était malade et qu'ils auraient besoin d'un sociolinguiste précisément pour le remplacer. Alors, j'ai hésité un peu parce que, en fait, j'avais fermé mon appartement ici, laissé toutes mes affaires. Je suis parti juste avec des valises. Et j'avais toutes les intentions du monde de
revenir. Voilà. À Montpellier, merci, c'est gentil.
Et donc, voilà, la vie en a décidé autrement. C'est-à-dire que, au fil du temps, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de rester une année de plus. Alors, l'année de plus est devenue 4 ans à Moncton, parce qu'il y avait toujours un besoin. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit que peut-être je pourrais, en fait, m'y établir, tout simplement.
Oui, une fois habitué le climat, etc.
Oui. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai postulé donc, à l'ouest du pays. Et c'est comme ça que je me retrouve en 2005 à l'Université de Calgary.
De Calgary.
Donc, qui se trouve dans une autre province qui est quand même à facilement 4000 km de Moncton, donc du côté ouest du pays.
Oui, Moncton, c'est tout à fait à l'est, je connais, oui.
Voilà. Ouais, donc, on est au pied des montagnes rocheuses. Mmh. De l'autre côté de la montagne se trouve Vancouver et la côte pacifique.
Voilà. D'accord. Et depuis, voilà.
Donc, je suis à Calgary depuis 2005. Mmh. Voilà.
D'accord.
Et je vais probablement y rester.
C'est très, très loin, hein, Calgary.
Oui.
De Montpellier.
Oui, c'est loin. Calgary.
C'est loin, c'est 8000 kilomètres Non
Je ne sais plus combien ça fait, mais c'est loin. Mmh. Effectivement,
ouais.
Oui.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que... Je suis toujours assez épatée. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on doit privilégier et protéger, c'est la francophonie. Puisque quelque part, bon, les pays africains, ils ont payé pour le savoir, on leur a imposé cette langue, mais à nous aussi, dans le Sud, on nous a imposé cette langue à l'origine. Et je trouve qu'à un moment, cette langue, elle est tellement enrichie, justement, par toutes vos cultures, toutes les diversités. Au Canada, c'est la même chose, le français, quand on va au Québec. Et je trouve ça formidable que, justement, ce soit un francophone, alors là, c'est d'origine africaine, qui soit là-bas pour, justement... s'occuper des langues, etc., avec cette culture francophone, enfin, de langue linguistique, quoi.
Oui.
Ouais.
Alors, j'ai pu accepter le poste parce que, bon, même si je suis dans une province et dans une université de langue anglaise, donc je suis quand même dans un département de français.
De français, oui.
Et donc, on y enseigne en français. Mmh. Alors, on communique avec l'administration en anglais, mais tous les cours sont offerts en français, y compris les cours de spécialité. Mmh. Donc, voilà. C'est une petite bulle de francophonie.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on sait un petit peu comment ça se passe aussi au Québec, où quand même les Québécois se battent pour vraiment conserver cette langue, et où on sent quand même que l'anglais... C'est intéressant de voir qu'il y a des petites bulles comme ça, c'est des bulles d'oxygène aussi, où vraiment on résiste un peu avec la langue. Alors moi j'ai envie de vous dire juste une petite phrase que j'adore, de Mahmoud Darwish, qui était un grand poète, un grand intellectuel, qui a souffert de l'exil, et lui il avait écrit « Et la terre se transmet comme la langue ». C'est-à-dire que quelque part, on peut se dire au fond que quand on va quelque part, avec sa langue, on emporte un petit morceau de terre aussi avec soi. Mmh. Hein? Même si c'est de la terre gelée à laquelle on n'est pas habitué, encore plus un Africain, bien sûr. Je trouve que c'est quand même formidable. Puis c'est formidable que notre langue elle soit servie comme ça par des avocats aussi ben, brillants. Si vous avez touché une bourse d'excellence, c'est pas par hasard, hein, c'est pas parce que vous êtes fils de ministre ou parce que c'est au mérite, je suppose, je pense, j'en suis sûre même.
Je voilà. suppose.
Voilà. Et comment ça se passe la vie là-bas, dans cette zone anglophone justement?
Non, la vie se passe bien. Enfin, il fait froid. Il faut commencer par les aspects géographiques.
Pendant longtemps, pendant de longs mois.
Oui. Ouais. Il fait froid à Calgary, mais c'est un froid sec. Tout à fait supportable. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur des maisons.
C'est confortable.
C'est très confortable. Pour tout dire, j'ai moins froid là-bas qu'ici. Parce que quand on construit une maison au Canada, aussitôt le toit mis... on s'occupe du chauffage. Voilà. Donc, c'est un détail de l'habitat qui n'est pas négociable. Mmh. Donc, du coup, par conséquent, on a voilà. Dans les maisons, on se promène en t-shirt.
Oui. Voilà. Et c'est vrai que ce qui me fascine aussi, c'est ces grandes baies vitrées. Parce qu'on voit bien que vous avez quand même des équipements. Là-bas, il y a des équipements qui sont très isolants.
Oui.
Je veux dire, une grande baie vitrée qui ouvre sur un spectacle gelé. Avec je ne sais pas combien de centimètres de neige, ou voire de mètres, et de voir qu'on se promène en t-shirt dans une maison, c'est quand même assez fascinant.
Oui.
Surtout quand on vient du sud de la France. Quoi.
Oui. Donc il faut en fait, et pour être dehors, il faut juste avoir le bon équipement.
Voilà.
C'est-à-dire que mon premier hiver a détruit toutes les bottes, tous les manteaux que j'avais pris avec moi de Montpellier.
Ah oui, Montpellier n'est pas
donc, équipé. Voilà. Une fois que j'ai acheté du matériel... Made in Canada, c'était bon. Voilà, donc ça, c'est le secret. Et puis ceux qui aiment le support d'hiver, évidemment. On n'est pas loin donc, de Banff, qui est donc la station de ski, qui attire tous les touristes du monde. Beaucoup d'Allemands qui viennent en hiver, beaucoup de Suisses, etc. Donc, ceux qui aiment les sports d'hiver sont quand même gâtés. Hein. Mm-hmm. Voilà.
C'est votre cas ?
Ce n'est pas mon cas.
J'allais vous poser la question.
mon sport d'hiver préféré, c'est feu de cheminée, un verre de vin rouge. Voilà. Personnellement.
Alors, on voit qu'il est passé par Montpellier quand même. Un verre de vin rouge, il dit.
Par la France, hein, globalement.
En tout cas, par la France, oui, globalement. Oui.
Alors, Ozouf, vous aviez évoqué aussi une famille, ou peut-être est-ce Marie-Claude. Alors, elle s'est constituée quand, cette famille ?
Quelle famille ?
Que famille ? Enfant ?
La vôtre.
Épouse ?
Ah, ok. Pas au Togo, hein, mais ma famille nucléaire actuelle. Ok, d'accord. Non, j'ai rencontré mon épouse à Moncton. Justement. Donc, elle est américaine. Elle était là pour des études de littérature française. Donc, voilà. Donc, on s'est installé à Calgary.
Une raison de plus pour ne pas envisager de retour aussi.
Oui, donc, enfin, elle n'est pas de là-bas non plus.
Elle n'est pas là-bas non plus, non, elle est américaine, voilà. Oui.
Donc on est,
elle est en tout cas sur le continent américain, c'est quand même moins loin que votre situation.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et notre fils, qui est le premier Canadien de la famille, lui, il a 11 ans.
D'accord.
Voilà.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une famille à nouveau où on parle au moins minimum deux langues. Puisque quand même la maman est anglophone, donc, et puis et voilà, et que là, après, pour peu qu'on mêle les langues traditionnelles, peut-être togolaises, ça fait, on est encore dans le multilinguisme, là.
Oui.
Oui.
Oui, oui, c'est vrai qu'on parle de français et anglais à la maison.
Voilà, et puis si je dois faire une petite commentaire, c'est que madame, donc, Medegnato, parle super bien le français. Voilà. Hein ? Elle est vraiment...
Oui, elle est francophone et très francophile.
Et très francophile. Voilà, c'est ce que je dis. Et c'est vrai que c'est, quand on la rencontre, c'est vrai qu'on sent vraiment que... Voilà, je crois que c'est bien qu'elle soit venue au moins passer une année, parce que je crois que ça correspond vraiment à ce qu'elle est intérieurement.
Oui, bon, c'est pour ça qu'on a eu envie de revenir ici, passer notre année sabbatique, revoir les copains, et profiter du bon climat du sud de la France, et voilà. Alors, Marie-Claude parlait tout à l'heure du cosmopolitisme de Montpellier. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on sent comme étudiant, c'était très sympathique d'avoir dans un espace, somme toute, assez restreint, hein, celui de Paul Valéry, etc., plusieurs nationalités qui se côtoyaient. Bon, on s'attend à ce que Paris soit cosmopolite, mais Montpellier l'est tout autant, en taille plus réduite.
En taille plus réduite, donc plus accessible plus, aussi, ouais, voilà. Ouais.
Et donc, on a rencontré le monde entier, Paul Valéry. Et j'aime à retracer, d'ailleurs, certains, au fil des colloques et des voyages. Parce qu'à l'époque, on s'était promis, voilà, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rende visite, etc. Et on le disait comme ça, sans trop y croire. Mais maintenant, quand on a la possibilité de le faire, c'est très émouvant.
Oui, c'est vrai.
Une fois, je voyageais... pour raconter très, très brièvement, j'allais à la Martinique et l'avion a fait un détour par Sainte-Lucie, que je ne connaissais pas. Or, j'avais rencontré quelqu'un de Sainte-Lucie, ici à Paul Valéry. Et donc, c'était un accident, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu qu'il y ait une pause à Sainte-Lucie. Alors donc, comme ça, je demande, parce que c'est quand même une petite île, Je sais que c'est petit, mais je vais quand même demander. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez un tel ? Et puis l'hôtesse, c'était à l'aéroport, me dit, attendez une seconde. Elle prend son téléphone et elle compose le numéro. Et 10 minutes plus tard, le copain était là.
C'est exceptionnel quand même.
Donc, donc, on a beaucoup ri, quoi. Pareil, on s'était promis à Montpellier de se rendre visite un de ces jours et ça s'est fait comme ça.
Et je dois dire que cet été, j'ai eu le bonheur d'être invité chez un ami commun qui est bon, qui n'est pas togolais lui, hein, mais, et que j'ai assisté à une séance de retrouvailles entre les copains et que c'était quand même assez extraordinaire de sentir, de revoir cette complicité. En plus, c'était très panafricain, même s'il y avait aussi quelques Européens. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que d'abord, c'est vrai que ça ramène à quand même quelques années en arrière, et puis c'est des gens que je connais, et puis de les voir avec ce plaisir qu'ils avaient à être tous ensemble, enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. repas qu'on a fait chez...
Oui, c'est vrai.
C'est Matt, voilà. Donc, oui, c'était vraiment sensationnel. Et voilà, et ça fait penser à la chanson de, comment il s'appelle, quand il dit « On s'était donné rendez-vous dans 10 ans ». Oui. Enfin, vraiment, c'est vrai que pouvoir retrouver comme ça des petites séquences, des petits éclairs de ce qu'on a pu vivre, de cette complicité, même si c'est une partie de la vie des gens, puisqu'après, bon, après les études, c'est sûr que chacun fait son chemin. C'est quand même très, très chouette. Oui. Et c'est vrai que, du coup, je profite pour remercier Ozouf d'être revenu à Montpellier.
Oui, et puis Montpellier, c'est, bon, c'est des années qui comptent aussi. Ouais. Il y a...
Tout à fait.
C'est des années de formation. C'est aussi les années de militantisme. Mm-hmm. Puisque,
absolument.
J'ai participé aux activités du collectif des Africains
de Montpellier. Ouais.
Mais surtout, j'avais fait le volet liaison. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, j'ai été pendant 3 ans le rédacteur en chef du journal.
Du journal, oui, qui n'existe plus malheureusement.
Ouais. Voilà. Donc, oui, j'ai toujours plaisir à revenir à Montpellier.
Oui.
Alors, liaison... Non, c'est bon.
Non, mais c'est vrai que c'était un journal. Enfin, moi, j'ai fait partie aussi de ce collectif. C'était quand même super, super chouette. Et c'est peut-être ce qu'on essaye aussi de faire ici, Guylaine, c'est-à-dire de refaire un peu une liaison entre toute cette diversité africaine pour la présenter à nos auditeurs, mais aussi parce que c'est vraiment que c'est un plaisir hein, de retrouver. Et Ozouf, c'est vrai, a été. Et il m'a beaucoup appris à l'époque sur les langues. Et notamment sur la catégorie des langues du Burkina. Voilà. On avait des discussions là-dessus et c'est vrai que c'est intéressant sur les familles linguistiques. Voilà, j'ai appris un peu.
Oui.
Et que moi, qui suis une passionnée de la langue, écrite et orale, j'avoue que Ozouf m'avait appris pas mal. J'y ai pensé souvent, hein, dans toutes ces années, à ses origines linguistiques.
Vous étiez peut-être sa première élève.
Ah, peut-être.
Non, mais c'est vrai que quand on avait des discussions, on parlait aussi de ça, puisque ça m'intéresse, et que voilà, et que Ozouf avait quand même une culture assez extraordinaire là-dessus.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé de langue, on a parlé de poésie.
De beaucoup, poésie, ben là, d'écriture, etc., etc. Oui. Voilà, oui. C'était vraiment... Et donc, de savoir que tout ça, ça vit à Calgary. Alors, Calgary, qui est aussi la ville de Nancy Houston.
Oui, c'est cela, oui.
Une écrivaine que j'aime beaucoup, mais c'est pas le plus intéressant. C'est que Nancy Houston est aussi une métisse de la langue, puisqu'elle est anglophone et francophone.
Oui.
Et que justement, elle a tout un vécu par rapport à ça qui est très particulier. D'ailleurs, je me disais que peut-être une chose, ce serait intéressant qu'on ouvre la rencontre. Elle est venue récemment là pour un spectacle de danse auquel elle participe, parce que vraiment, elle a ce vécu, elle, de ce croisement des deux langues qu'elle utilise. Elle a une histoire assez difficile, et ces deux langues marquent chacune un pan un côté de son histoire. Et c'est quand même assez extraordinaire. Donc, quand je suis Kozouf était à Calgary, j'ai pensé.
En réalité, on s'est déjà croisés.
Ah, d'accord.
Oui. Ouais. À l'Alliance française de Calgary.
Ah, justement. Ok.
Mais il y a très longtemps.
Il y a très longtemps. Mais ben, ce serait bien de vous revoir. Pourquoi pas ici? Parce qu'ils vont, je crois qu'ils vont revenir pour le spectacle. Ce serait intéressant que vous rencontriez à Montpellier. D'accord. Avec Nancy Houston. Voilà. Et c'est vrai que quand cette histoire de bilinguisme comme ça, elle est quand même. Et là, votre fils, il s'exprime dans les deux langues sans problème.
Oui. Comme on vit dans un endroit anglophone, il est plutôt anglophone.
Bien sûr, et avec les copains et tout, c'est normal. Voilà.
Mais il va à l'école...
Française aujourd'hui, français, en voilà. France, d'accord.
Donc, non, même là-bas.
Ah, même là-bas, d'accord.
Oui, parce que l'État fédéral garantit quand même l'accès à l'éducation dans les deux langues officielles.
Ah, d'accord.
Oui, voilà. Donc il y a des écoles publiques de langue française.
Ah oh, ben dis donc, il y a des leçons à prendre.
Pour ce qu'on appelle là-bas les ayants droit. Et de ce côté du monde, et pour la majorité anglophone, donc les écoles de langue anglaise, et pour ceux qui ne sont pas les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui sont, par exemple, anglophones, mais qui aimeraient que leurs enfants sachent le français, il y a un troisième système scolaire qui s'appelle le système d'immersion. Voilà. Et donc, où on commence avec de l'anglais, et puis progressivement, on augmente la dose de français, etc.
Mais c'est extraordinaire, ça.
La préoccupation linguistique, on le voit, est très forte.
Oui, quand on voit ici les problèmes qu'on a par rapport aux langues, même à l'enseignement des langues.
C'est une affaire sérieuse.
Oui, oui.
Donc, l'accès aux deux langues officielles. Est un... Bon, les francophones doivent toujours se battre pour l'égalité linguistique. De fait, c'est vrai que l'anglais est dominant.
L'anglais est dominant dans le monde entier, donc...
Alors, dans quelle langue va chanter votre chanteuse que vous avez proposée pour cette émission?
Je pense qu'un bambara, non? Parce que si c'est...
Oui, c'est
non.
ce que je dirais, oui. Ouais. Moi, je ne connais pas le bambara, effectivement, mais je dirais oui, que c'est...
Et alors, c'est
Pardon?
C'est qui, alors, qu'on va écouter?
Oh, c'est Rokia Traoré. Hein? Je ne la connais pas personnellement. J'aime beaucoup ce qu'elle, ce qu'elle chante. Et j'aime beaucoup la musique malienne. Oui. Simplement parce que, pour moi, donc, qui est grandi au nord du Togo, donc on commence à se rapprocher du Sahel, hein, et du Burkina Faso, cette musique a des résonances particulières. Ça sonne pour moi, le balafon et la kora, etc. Ça sonne, ça donne un son que je perçois comme liquide. Et j'ai toujours eu l'impression que la musique malienne, qui est née dans le Sahel, était une espèce de thérapie dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau, que la musique apportait comme ça de l'eau, quand on l'écoutait. Donc c'est pour ça que je suis passionné de musique malienne.
Ah ben moi qui l'adore, je ne vais plus l'écouter de la même façon après avoir écouté Ozouf. Ça, c'est sûr. Parler de l'air du liquide de la musique malienne. C'est vrai que c'est magnifique, je suis d'accord.
Alors c'est donc Rokia Traoré avec Moussoni Allen qui va conclure ce premier épisode d'émission avec vous. Ozouf Amedeniato, vous êtes linguiste à Calgary, vous êtes ici en année sabbatique à Montpellier et on continuera de parler de votre parcours la semaine prochaine. À bientôt, au revoir Marie-Claude.
Au revoir. Ozouf, au revoir Guylaine, à bientôt. Cocoro Fe.